tous, c'est Marie-Pierre Haddad. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Tout savoir sur, le podcast de la rédaction de RTL. Aujourd'hui, je vous propose de tout savoir sur l'éternel retour en politique.
Ma position sur les questions militaires, et je l'ai montré quand j'étais président, c'est que moins on en dit, mieux on agit. Ne pas dire ce que l'on fait, mais faire ce que l'on n'a pas dit. C'est ça qui permet d'avoir le plus d'efficacité et de ne rien faire connaître, à, en l'occurrence Vladimir Poutine, de nos intentions.
François Hollande ne se prive jamais quand il faut donner un conseil à son successeur. L'ancien président de la République n'a plus de mandat, mais cela ne l'empêche pas de continuer à faire entendre sa voix dans la vie politique. Et aussi dans les sondages, cette stratégie semble fonctionner, puisque François Hollande est devenu la troisième personnalité politique préférée des Français. Et tel un candidat à une élection, il fait des déplacements partout en France. Sauf que c'est pour promouvoir son dernier livre qui s'appelle « Notre Europe ». Ce retour médiatique m'a donné envie de m'interroger sur le retour en politique. Les ex-responsables ne semblent jamais bien loin de tenter un retour actif dans la vie politique. Pourquoi leurs noms reviennent si souvent? Et est-ce possible de revenir après avoir subi un échec électoral? Ça, c'est le programme de cet épisode. Et pour nous éclairer, j'accueille Bruno Cotresse. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences politiques au CNRS et au Centre de recherche politique de Sciences Po, le CEVIPOV. Quand vous avez entendu les propos de François Hollande sur la stratégie que doit adopter la France vis-à-vis de la Russie, vous vous êtes dit quoi?
Eh bien, je me suis dit que décidément, l'ancien président comptait toujours être un acteur du débat politique. On sait que l'ancien président est quelqu'un qui est toujours extrêmement connecté au monde de la politique, qu'il reçoit beaucoup dans les locaux dont il dispose comme ancien président de la République. Et je me suis dit, en fond, on voit que François Hollande continue de vouloir faire entendre sa différence au titre de son expérience. Alors régulièrement, il a eu l'occasion, effectivement, on va dire non pas de tacler, le mot serait évidemment exagéré, mais en tout cas de faire entendre sa différence par rapport au jeune Emmanuel Macron qui lui a succédé en 2017.
Est-ce qu'on peut dire que c'est le retour de François Hollande dans la vie politique française?
Alors,
si tant est qu'il en soit déjà parti.
Voilà, on peut se demander, l'a-t-il véritablement quitté? Non, François Hollande n'a jamais quitté fondamentalement la vie politique. Il a quitté ses fonctions, rappelons-le, dans un contexte tellement exceptionnel, ce renoncement à se représenter, que forcément ça a nourri chez lui l'envie de continuer à faire de la politique. C'est sa vie, c'est sa passion, et peut-être aussi attend-il qu'un jour, le contexte, les événements, les situations lui donnent l'occasion à nouveau de vouloir revenir en politique. On sait que c'est très difficile. Il y a beaucoup d'anciennes personnalités politiques qui essayent de revenir. Le retour, c'est très très compliqué en politique.
Justement, on va en parler ensemble. Je voulais revenir sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de contexte politique. On est obligé de remettre tout ça dans le contexte actuel. Dans 3 mois, il y a les élections européennes. Raphaël Glucksmann, qui incarne la campagne pour les socialistes et candidats. Est-ce que François Hollande est là pour doper sa candidature ou au contraire pour essayer de faire entendre sa voix d'après vous?
Ce qui est certain, c'est qu'au sens politique du terme, François Hollande attend que son ancien mouvement politique, le Parti Socialiste, sorte clairement de la stratégie d'alliance avec la NUPES et la France Insoumise. François Hollande n'a jamais caché qu'il s'agissait pour lui d'une erreur stratégique importante, que les socialistes avaient selon lui vocation à être le pôle dominant de la gauche, une gauche de gouvernement. Et bien évidemment, si la liste de Raphaël Glucksmann aux élections européennes faisait un score meilleur, voire bien meilleur, que celle des insoumis, ça serait vécu par beaucoup de centristes de gauche, de sociodémocrates, de cette gauche qu'on appelle souvent la gauche de gouvernement. Bien évidemment, ça serait vécu comme eux, comme une excellente nouvelle qui pourrait envoyer un signal que peut-être les choses vont à nouveau bouger à gauche.
Donc il anticipe déjà cette hypothèse. Je voudrais revenir avec vous sur sa position dans les sondages. En fait, il y a un peu une règle simple quand on veut revenir en politique, c'est plus on est éloigné du pouvoir, plus on est populaire auprès des Français.
Et oui, parce que d'abord, l'univers de la politique, le monde de la politique, il inspire des sentiments mais tellement négatifs aux Françaises et aux Français que dès qu'une personnalité sort de l'orbite du pouvoir, magique, un effet magique arrive, elle redevient populaire. Rappelons que François Hollande avait fini son mandat au plus bas de la popularité, parmi les taux les plus bas de popularité qu'un exécutif n'avait jamais eu en France. Il a quitté la sphère directement de la politique, il redevient beaucoup plus populaire. Forcément, il a une image davantage rassembleuse. Alors, vous savez, les anciens présidents souvent écrivent des livres. C'est le cas de François Hollande. Il a écrit plusieurs ouvrages maintenant depuis qu'il n'est plus en fonction. Ils font des signatures de livres, ils deviennent très populaires. Les gens vont acheter leurs livres dans les librairies, font la file d'attente pour obtenir un autographe de l'ancien chef de l'État. Alors évidemment, ça nourrit chez les chefs de l'État en question, qu'il s'agisse de François Hollande, mais même de Nicolas Sarkozy, ça nourrit un petit peu la nostalgie pour eux. Deuxièmement, en fait, les gens m'aiment et veulent que je revienne. Alors c'est une chose d'être populaire dès lors qu'on a quitté la sphère du pouvoir. Ça ne veut absolument pas dire que l'on redeviendrait, que l'on maintiendrait cette popularité si l'on redevenait au centre du jeu politique.
Et pour continuer d'analyser la popularité de François Hollande, quand on regarde chez les jeunes, chez les 18-25 ans, on voit qu'il est particulièrement populaire. Et d'après lui, c'est parce qu'il est le président de leur enfance. C'est les mots qu'il emploie. Et il déclare, il y avait le Père Noël et le président. Moi, j'étais le président. Je leur suis resté sympathique. En fait, c'est aussi simple que ça. On a grandi avec un président. Donc même s'il n'est plus au pouvoir, après, on en garde un bon souvenir.
Alors là, on retrouve effectivement tout ce fameux sens de l'humour que François Hollande a toujours utilisé, y compris sur lui-même. Alors c'est vrai que pour une génération de jeunes qui a vu François Hollande, au fond, non pas comme chef de l'État, comme s'ils avaient été des électeurs adultes, mais qu'ils l'ont vu incarner le pouvoir quand ils étaient enfants, peut-être que ça a compté. Il y a peut-être aussi dans la jeunesse aujourd'hui en France un sentiment que notre vie politique est devenue très difficile, très polarisante, extrêmement conflictuelle, et que des personnalités comme François Hollande, qui ont toujours incarné, on va dire, un exercice plus modeste, moins emphatique du pouvoir, moins conflictuel du pouvoir, peut-être que ça explique aussi ce regain de popularité parmi une partie de la jeunesse.
Quand on parle de retour en politique, on évoque aussi cet ancien président. Vous avez déjà donné son nom.
Je suis un Français qui habite en France, qui écrit des livres. Il y a des centaines de personnes qui veulent que je le signe. Je ne m'affiche ni je ne m'expose. Je fais ce que j'ai toujours fait, partager des souvenirs, des réflexions, de l'amitié.
Nicolas Sarkozy, alors lui, il a déjà fait son retour en politique quand il a fallu lancer Les Républicains et être candidat à la primaire de la droite et du centre, c'était en 2016. Ça s'est soldé par un échec et pourtant, malgré ça, on continue d'évoquer son nom. Pourquoi, selon vous, Bruno Cotterêts ?
Alors, il y a une situation un peu particulière à cette droite, à ce centre-droit français qui est dans une situation tellement difficile, tellement délicate, qui n'ont pas gagné d'élection majeure, au fond, depuis la présidentielle de 2007, lorsque Nicolas Sarkozy gagnait l'élection présidentielle. C'est une formation politique qui a subi de plein fouet cette concurrence avec le Rassemblement national, dont une partie maintenant a été absorbée par Emmanuel Macron. Donc une formation politique qui est à la fois en perte de repères et en recherche d'un leader qui pourrait à la fois incarner le centre de gravité de la droite, et puis peut-être aussi un leader qui pourrait incarner la gagner des élections. Mais rien n'est plus essentiel pour une formation politique. Alors c'est vrai que de ce point de vue-là, Nicolas Sarkozy à droite, ça reste une référence. Et puis l'ancien président a conservé beaucoup d'abattages politiques. Il continue lui aussi à régulièrement se rappeler. Il avait par exemple pris très clairement position au cours des derniers mois pour dire à sa formation politique, Les Républicains, qu'il devait s'engager plutôt dans une stratégie d'alliance avec Emmanuel Macron plutôt qu'une stratégie d'isolement. Donc on voit qu'effectivement, les anciens chefs de l'État, si le projet de revenir au premier plan est peut-être utopique, ils continuent d'exercer un magistère moral sur leur formation politique, tout simplement parce que très souvent, ce sont les derniers qui ont pu gagner l'élection majeure, l'élection présidentielle.
Est-ce qu'on peut dire que ce soit pour François Hollande ou Nicolas Sarkozy, la politique c'est fini pour eux, ce sont des observateurs et ce ne seront plus des acteurs de la vie politique par rapport à leur personnalité, est-ce que c'est possible de décrocher ?
Impossible de le dire. Ce sont des personnalités qui ont la politique viscéralement liée à eux. Vous savez, quand on devient président de la République ou présidente, lorsqu'on en arrive à gagner cette élection qui est tellement difficile, avec beaucoup de concurrence, l'élection présidentielle, c'est 9, 10, 11, 12 candidats, parfois même un peu plus. Gagner cette élection, ça montre qu'on a viscéralement en soi le sens de la politique, l'amour de la politique, la passion de la politique et du combat politique. Et bien donc ça ne passe pas, ça y compris lorsqu'on est un retraité de la politique. Donc non, évidemment, ils continuent d'être des acteurs politiques, peut-être pas directement liés à la politique, puisqu'ils ne sont plus responsabilités, mais des acteurs qui tentent d'influencer à la fois leur formation politique, leur famille politique, mais aussi d'influencer l'actuel pouvoir. Et on a vu qu'Emmanuel Macron, eh bien, régulièrement recevait ses prédécesseurs.
Cette tentation du retour en politique, elle ne touche pas seulement les anciens présidents de la République. En novembre 2023, eh bien, il y a une autre personnalité qui a aussi tenté son retour.
Mais ça n'est pas parce que j'ai commis un acte parfaitement immoral que ce retour l'est par là même. La morale, vous savez, vous avez des pays où on coupe la main d'un voleur, on lapide une femme adultère, on tranche la tête d'un apostat au nom de la morale. C'est pas la nôtre. Poutine dénonce l'Occident décadent et immoral. C'est sa morale, c'est pas la nôtre.
Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget sous François Hollande, est condamné pour fraude fiscale. Je voudrais vous faire écouter par la même occasion la réaction d'un auditeur de RTL sur ce possible retour.
Comment vous réagissez? Alors, on va être prudent, il n'est pas encore revenu en politique, mais il dit pourquoi pas, voilà.
Moi je dis simplement une phrase, la dignité d'un homme elle est où? Je veux dire, il faut être digne dans la vie. Tu fais une connerie, ben tu reviens pas. Moi, dans mon entreprise, on déconne, et ben on revient plus, c'est fini.
Bruno Cotterêts, est-ce qu'il y a des retours en politique qui semblent plus improbables que d'autres quand même?
C'est vrai que là, ça paraît très improbable, très difficile. On comprend évidemment la démarche personnelle de Jérôme Cahuzac. On peut tout à fait comprendre qu'à titre personnel, ce qu'il vit lui comme homme, eh bien lui, il vit là, le sentiment d'avoir payé sa dette. Et c'est vrai que avoir rendu des comptes devant la justice, en avoir reçu des sanctions, ben on comprend très bien qu'à titre personnel, ça puisse introduire cette idée qu'on a payé sa dette et que donc on est quitte avec la société, qu'on peut redémarrer. Mais alors on voit qu'au titre du symbole politique et notamment les motivations de la condamnation de Jérôme Cahuzac pour fraude fiscale, on voit que ça devient très compliqué de revenir pour incarner le bien public. Ça, on voit que c'est pratiquement impossible. Alors est-ce que l'ancien ministre qui a été tellement emblématique à un moment donné, eh bien, est-ce qu'il pourrait revenir avec peut-être à travers la vie politique locale avec un mandat extrêmement modeste, servant simplement le bien public au niveau le plus concret, peut-être le plus local du terme. Peut-être que ça, c'est envisageable. Mais alors, le retour au devant de la scène pour incarner à nouveau le bien public pour l'ensemble de la société, là, on voit que c'est beaucoup plus compliqué. Il faut être prudent parce qu'en même temps, je dirais qu'il ne faut pas être à donner des leçons de morale, etc. Il a payé sa dette. Ça, c'est clair. Mais on comprend tout à fait la réaction de l'auditeur qui dit « Bah, moi, si je fais une faute grave, dans ma vie professionnelle, il n'y a pas de retour et je ne reviens pas. » Toute la difficulté, c'est effectivement cette possibilité d'incarner à nouveau la morale et le bien public quand on a été condamné, notamment pour des motivations qui sont celles qui ont valu des ennuis à Jérôme Cahuzac.
Et est-ce que ça ne distille pas l'idée que dans la sphère politique, tout est possible?
C'est vrai que nos enquêtes le montrent toutes. Nous venons de publier au CVPOF notre baromètre annuel de la confiance politique qui dresse un portrait extrêmement sombre, extrêmement négatif de la manière dont les Françaises et les Français voient l'univers de la politique, des arrangements petits amis, entre des petits arrangements entre amis, on pourrait dire, c'est-à-dire effectivement un univers où on a à la fois des privilèges, où on s'auto-excuse, donc effectivement, de ce point de vue-là, le retour à partir d'une condamnation devant les tribunaux est très difficile, et ça n'est pas du tout la même chose que le retour, par exemple, d'un François Hollande qui veut lui revenir éventuellement, parce qu'il a le sentiment que la fin de son mandat ne lui a pas permis de s'expliquer complètement avec les Françaises et les Français, mais François Hollande n'a jamais été condamné devant la justice.
Et plus on approche d'une période électorale, plus on voit des noms ressurgir. Ce sont des personnalités qui sont bien identifiées du grand public. En 2022, année d'élection présidentielle, il y a eu le retour de Christiane Taubira.
La politique à 3 mois et 1 jour du premier tour de l'élection présidentielle, la situation de la gauche se complexifie encore un peu plus puisque l'ancienne ministre de la Justice, Christiane Taubira, annonce qu'elle se soumettra au résultat de la primaire populaire. Un scrutin qui devrait se dérouler à la fin du mois avec environ 300 000 participants en vue de désigner un candidat unique de la gauche. Autrement dit, si elle gagne cette primaire, elle sera candidate.
Christiane Taubira, ancienne ministre de la Justice, qui a fini par retirer sa candidature à l'élection présidentielle. Bruno Cotterêts, je pourrais aussi évoquer le nom de Bernard Cazeneuve, qui revient souvent, l'ancien Premier ministre. Ségolène Royal aussi, qui ne dit jamais non. On a l'impression que ça se passe surtout à gauche, cette envie de retour en politique. C'est quoi? C'est une spécialité chez eux et ça ne concerne pas du tout la droite?
Non, je pense que ça s'explique plutôt par le contexte de la gauche et notamment dans la présidentielle de 2022, où on voyait un électorat de gauche qui était très, très fortement acquis à l'idée d'une candidature unique de la gauche, ce qui était le principal leitmotiv de Christiane Taubira, l'ancienne garde des Sceaux, qui dispose d'un crédit moral à gauche très important, qui s'est présenté à cette primaire dite populaire, eh bien, pour essayer d'imposer l'idée d'une candidature unique. Et on voit que c'est ça qui explique, eh bien, ces multiples tentatives de faire ressurgir des personnalités à gauche, parce que la gauche aujourd'hui est assez désunie malgré la création de cette nouvelle coalition, de cette nouvelle alliance de la NUPES, et qu'on voit bien que pour les années qui arrivent à gauche, le problème va être double. Trouver à la fois un programme politique qui permette de renouer avec l'histoire mythique à gauche de l'union de la gauche, et en même temps trouver une personnalité qui peut incarner la gagne pour l'élection présidentielle. Et on voit que sur ces deux aspects, sur ces deux enjeux considérables pour la gauche, pour le moment, la situation n'est pas clarifiée.
Il y a un argument aussi qui revient souvent, ça concerne les anciens présidents, anciens ministres, anciens députés. Ils disent tous, c'est pour sauver ma famille politique. Il y a quasiment quelque chose de sacrificiel. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie, mais ils le font par devoir. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous avez constaté ?
Oui, bien sûr, et c'est d'ailleurs quelque chose qui va être régulièrement un peu moqué dans l'opinion, de dire, mais non, en fait, ils veulent surtout revenir à titre de satisfaction personnelle. Mais c'est vrai que c'est une explication qu'ils nous livrent souvent. Au fond, ils étaient de paisibles retraités de la politique. Ils avaient atteint une sorte de vie
de
personnelle, de plénitude. Ils ont exercé les responsabilités les plus importantes, mais ils doivent se sacrifier tellement la situation de leur famille politique est désastreuse. Donc on retrouve ici d'ailleurs une rhétorique, une sémantique extrêmement intéressante, qui est l'idée de la famille politique. Un concept, un terme qu'utilisent énormément, par exemple, Nicolas Sarkozy, pour montrer qu'ils sont, eux, les garants à la fois de la mémoire, de l'unité et peut-être potentiellement de la trajectoire de cette famille politique pour la conduire à nouveau à l'Élysée.
Est-ce que tous les retours en politique sont possibles ? Par exemple, si on prend François Fillon ou même Dominique Strauss-Kahn, est-ce qu'eux peuvent, même à travers des mandats locaux, par exemple, envisager de se représenter à des élections et de revenir dans la politique française ?
Quand le curseur a été poussé très, 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 très loin du scandale, il semble que le retour même à des responsabilités locales soit quasiment, quasiment impossible. On imagine bien que même si François Fillon, si Dominique Strauss-Kahn se présentait à une élection locale, mais même en position de dernier sur une liste d'un conseil municipal d'une toute petite commune, tous les médias seraient là. Ils seraient à nouveau bombardés de questions et à nouveau on reviendrait sur les scandales qui leur ont valu tellement d'ennuis. Je me doute que, y compris pour eux-mêmes, ils ne souhaitent pas du tout à nouveau être exposés. Ils ont été des grands brûlés de la politique, et quand on a été littéralement carbonisé par le scandale, eh bien, il est pratiquement impossible de revenir.
Il existe un autre cas de figure où on observe un peu cette notion de retour, eh bien, c'est quand il y a un remaniement.
Personne ne sait quand ni qui sera remanié. J'ai un peu l'impression d'être sur le banc de touche, nous glissait il y a quelques jours encore un ex dans la tente de sa nomination future. Et il n'y a pas que les politiques et leurs cabinets qui s'impatientent. Des secteurs entiers réclament leurs nouveaux interlocuteurs.
Alors à chaque remaniement, il y a les mêmes noms d'anciens ministres ou proches du président qui reviennent. La même petite liste. Par exemple, Richard Ferrand, qui a été président de l'Assemblée nationale. Pourquoi Bruno Cotterêts ?
Oui, vous savez, les moments de remaniement sont les moments de toutes les rumeurs, de toutes les... les infox et de toutes les rumeurs. Donc on va très souvent essayer de décoder dans une petite déclaration, dans un signe minuscule qu'a donné le chef de l'État, eh bien, qui pourrait à nouveau toucher le Graal sacré, être nommé au gouvernement. Et très souvent, ce sont dans des moments de crise où on a le sentiment qu'il faut faire appel à des personnalités qui soit ont bien fonctionné au moment où elles avaient des responsabilités, soit qui représentent des gens qui sont assez neutres, qui, si on les nomme, ça ne va pas froisser tel courant de la majorité ou telle autre personnalité. Donc c'est la raison qui explique que très souvent, on va agiter ces noms. Mais très souvent, ce sont un peu des leurs.
J'ai une dernière question, Bruno Cotterêts. Est-ce que ce n'est pas tout ça, ce retour en politique, cette envie de revenir perpétuel, est-ce que ce n'est pas une spécialité à la française au final ? Est-ce que dans les autres pays européens, on observe le fait de pouvoir partir, revenir comme ça dans la sphère politique ?
Il y a évidemment une spécialité française, ça concerne aussi d'autres pays, mais c'est vrai que dans notre pays, la longévité des carrières politiques ne cesse d'étonner nos observateurs, les observateurs européens. Il y a un pays que moi je connais bien, j'y ai vécu, c'est le Royaume-Uni, où là, il est extrêmement rare rarissime que l'on puisse revenir. On a bien l'actuel ministre des Affaires étrangères britannique, David Cameron, qui a été Premier ministre, mais après une très longue traversée du désert, et généralement au Royaume-Uni, quand on perd une élection législative, qu'on n'arrive pas à se faire élire ou réélire dans sa circonscription, c'est la fin de la vie politique, à l'exception des anciens premiers ministres, qui sont très souvent nommés à la Chambre des Lords, un petit peu comme si nos anciens premiers ministres en France étaient nommés automatiquement au Sénat.
Merci beaucoup Bruno Cotresse. Cet épisode est réalisé par Jonathan Griveaux. Vous pouvez écouter tous les épisodes du podcast Tout Savoir Sur, les noter et évidemment nous laisser des commentaires, on vous lit, que ce soit sur l'application RTL, sur RTL.fr et sur toutes les plateformes de téléchargement.